Oui, je crois que dès qu'on parle d'école, il y a une chose qui vient en tête, qui je crois avait été mise en avant, soulignée par Françoise Dolto, c'est qu'au fond, enfin, ce qu'elle met en œuvre, l'école de la Neuville, entre autres choses, c'est l'idée qu'un enfant, quelles que soient ses difficultés, il y a des domaines dans lesquels il peut réussir. Et ces domaines dans lesquels il va réussir, ça peut être le sport, ça peut être la cuisine, ça peut être le découpage du poulet, enfin, peu importe. Le domaine dans lequel il va pouvoir se sentir fort, se sentir sûr de lui, va pouvoir éventuellement faire tache d'huile sur d'autres domaines dans lesquels il est classé comme déficient, à condition que le domaine dans lequel il réussit soit reconnu comme tout aussi important que les mathématiques ou le français. Etc. Donc, alors évidemment, lorsqu'on dit ça, on peut penser que, bah oui, mais autant d'enfants, autant d'écoles à ce moment-là. C'est vraiment poser les choses en termes de tout ou rien. On pourrait imaginer un effort de réflexion pédagogique, mais pas seulement pédagogique, également psychologique, qui essaye de se dire, mais mettons, il y a X%, je ne veux pas dire des chiffres trop hasardeux, mais je crois que ça tourne autour de 20-25%, l'échec scolaire en primaire, c'est-à-dire des enfants qui vont arriver à l'âge de 11-12 ans en étant en possession d'une capacité de lecture limite, à la limite inférieure. Alors, est-ce que cet échec scolaire est absolument, ce taux d'échec scolaire est inévitable? N'y aurait-il pas lieu de se poser des questions? Et est-ce que l'échec scolaire est imputable aux enfants, ou bien ne serait-il pas imputable aux méthodes employées qui ne font pas assez cas des profils différents que peuvent présenter des enfants? Alors, il faudrait évidemment rentrer dans le détail, là. Il y a différents paramètres, des paramètres d'époque. Par exemple, notre époque est caractérisée par le problème des banlieues, le problème de l'immigration, et il est évident que un enfant de 7-8 ans d'une famille immigrée depuis un an ou deux en France, dans des conditions qu'il y a à peine lieu de décrire, eh bien, c'est pas l'enfant type de l'école primaire de Jules Ferry ou même des années 30. Donc, je crois que bon, si on prend en considération ce qui a été tenté à l'école de la Neuville, c'est un peu dans cette optique-là. La tentative, c'est d'apporter des réponses. Comment faire pour que l'école puisse donner plus de chances à des enfants qui, manifestement, n'arrivent pas à s'adapter à l'école traditionnelle? Alors, est-ce qu'on... La réponse, très souvent, elle est en termes de mesure, hein, c'est-à-dire avec une idéologie de la mesure derrière, de QI, c'est un enfant qui n'est pas assez intelligent, ou qui, etc., etc. Et je crois que l'un des principes de l'école de la Neuville, je ne dirais pas parce que je ne suis pas un historien de la pédagogie, c'est l'école de la Neuville qui l'a inventé. C'est-à-dire que ce qui fait partie de l'instruction perdrait son caractère plus ou moins contraignant, rébarbatif, facteur ou synonyme d'échec, de notation drastique, etc., etc. Je crois que c'est d'abord ça, les grands. Les choses d'abord essentielles quand on soulève le problème de l'école en général. Est-ce qu'on peut arrêter là?
On peut arrêter là.
Alors, une grande partie des enfants qu'un psychanalyste est amené à recevoir, ce sont des enfants qui viennent, qui sont. On leur a proposé de venir, je vais dire ça pour être très élégant. En réalité, très souvent, ils viennent amenés par leurs parents. Et la première chose que peut faire un analyste, c'est de s'enquérir, de savoir s'ils avaient envie de venir le voir. Parce que généralement, il faut bien dire ce qui est, ils viennent voir le psychanalyste comme ils vont chez le dentiste. Mais une grande partie des enfants qui débarquent dans le cabinet d'un analyste, qu'il s'agisse d'un cabinet en ville ou qu'il s'agisse d'un CMP, sont des enfants qui sont en difficulté scolaire. Cette proportion d'enfants venant voir un analyste et qui sont en difficulté scolaire est encore plus forte si on considère une population qui est celle que je connais par rapport au CMP où je travaille sur la Seine-Saint-Denis. Là, la proportion de ceux qui sont en échec scolaire est énorme. Et très souvent, avant même de pouvoir entreprendre un travail thérapeutique, ou même très vite après le début du travail thérapeutique, ce qui apparaît, c'est que l'enfant, qui a déjà un retard scolaire, ou même s'il n'a pas de retard scolaire, a beaucoup de mal à s'adapter à l'école traditionnelle. Et donc, l'une des préoccupations des thérapeutes dans ce cadre-là, c'est d'arriver à éviter qu'il soit pris dans l'engrenage de l'échec scolaire, c'est-à-dire du redoublement, éventuellement de la classe de perfectionnement, avec comme échéance les fameux 12 ans qui sont le couperet, où après ils vont à SES, c'est-à-dire dans des structures soi-disant secondaires, mais où ils sont à la dérive. Donc le problème est de trouver des structures scolaires qui pourraient les accueillir sans qu'il s'agisse de ce qu'on appelle l'éducation spécialisée, c'est-à-dire sans qu'il soit question de poser un diagnostic d'ordre psychiatrique sur ces enfants. Et c'est un peu dans ce cadre que moi, personnellement, dans ma pratique analytique sur le terrain, en Seine-Saint-Denis, j'ai été amené à entendre parler de l'école de Lanneville par des collègues qui étaient dans la même situation que moi, qui cherchaient des structures scolaires pour des enfants qui étaient en difficulté. Et donc, les premiers contacts que j'ai eus avec l'école de Lanneville, c'est à travers des enfants avec l'aide d'assistantes sociales, de gens qui s'occupaient de toutes les questions matérielles, donc à travers des enfants auxquels j'ai proposé, qui ont accepté d'aller à l'école de Lanneville, et qu'éventuellement, dans bien des cas, je continuais à voir, par exemple le samedi, qui continuaient leur thérapie, mais qui étaient dans une autre structure scolaire. Donc j'étais évidemment à même d'évaluer, indépendamment du travail que ces enfants pouvaient faire avec moi sur le plan analytique, j'étais évidemment à même d'évaluer, de me rendre compte du bénéfice qu'ils pouvaient retirer à partir du moment où ils étaient dans ce cadre, qui les prenait en considération tout bêtement, hein, qui s'intéressait à leurs difficultés, mais plus encore à ce qu'ils pouvaient réussir d'abord, et qui, en quelque sorte, leur faisait abandonner leurs attributs d'enfants en échec, de redoublants, de nul en ceci, de nul en cela. J'ai le souvenir de quelques enfants comme ça, qui étaient effectivement, qui n'arrivaient pas, hein, je ne vais pas faire d'évaluation, mais qui n'arrivaient pas à apprendre les mathématiques ou autre chose, et qui revenaient de l'école de Lanneville au bout de quelques semaines, et qui leur arrivait de me dire qu'ils étaient forts en foot. Et ce qui était important, ce n'était pas seulement qu'ils étaient forts en foot, mais que le foot et leur réussite en foot étaient considérés. Ça n'était pas une annexe, ça n'était pas quelque chose de subsidiaire, mais c'était tout aussi central que les mathématiques. Et moi, donc, je les ai vus évoluer, ces enfants, de ce point de vue. Alors après, je crois que ça se situe quelques mois ou un an après la disparition de Françoise Dolto, que les adultes de l'école de Lanneville allaient voir assez régulièrement. Michel Amram, Fabienne Nortoli ont pris contact avec moi et m'ont proposé de venir.
Ça tourne. 132 sur 9 premières.
Alors, il y a un autre aspect de ce que j'ai appelé le cadre symbolique qui fonctionne à l'école, qui peut se résumer autour de deux axes ou de deux points complémentaires, qui est celui du droit à la parole et de l'écoute de la parole de l'autre. Alors, ça se matérialise notamment, entre autres, dans bien d'autres endroits, mais notamment dans ce rituel important, hebdomadaire, ce repère qu'est la réunion. Il est frappant de constater que la réunion, c'est un lieu où les enfants apprennent d'une part à prendre la parole en public, ce qui n'est pas évident pour un enfant. Donc ça suppose que progressivement, l'enfant organise son discours de telle manière qu'il puisse être compris par les autres, donc soutient des idées, soutient un point de vue devant un public. En quelque sorte, il apprend à s'exprimer socialement. Et simultanément, il y a une sorte d'apprentissage également de l'écoute de l'autre. C'est-à-dire que, à la différence de beaucoup de groupes d'enfants, la réunion est un endroit où on sait faire le silence. D'abord, symboliquement, la réunion commence par une minute de silence, où, d'une certaine manière, on se vide du trop-plein d'énergie, du bruit de l'extérieur, et on instaure une sorte de climat particulier qui va être celui de la réunion, et où chacun va apprendre à écouter l'autre, donc à ne pas parler quand quelqu'un parle, de manière à ce que chacun puisse l'entendre. Alors, cette affaire de droit à la parole et d'écoute, bon, ça véhicule évidemment le respect de l'autre, la prise de conscience de l'altérité, ça véhicule la possibilité de se faire entendre, de parler de soi, c'est-à-dire que progressivement, on s'aperçoit, l'enfant peut s'apercevoir que ce qu'il a à dire, quoi qu'il ait à dire, peut avoir un intérêt, et qu'il n'est pas obligé de passer par tel ou tel canal pour éventuellement se faire entendre. Donc ça fait partie, cette question du droit à la parole, qui va bien au-delà de la réunion, c'est-à-dire que un enfant qui a à dire quelque chose, qu'il s'agisse de la cuisine, qu'il s'agisse de l'organisation des journées, s'il a à se plaindre de quelque chose ou si quelque chose ne lui plaît pas, il va pouvoir le dire. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il aura raison sur tout, qu'on va tout modifier parce que ça ne lui plaît pas, mais il va pouvoir rentrer en dialogue, en concertation avec tel ou tel de ses copains ou tel adulte responsable de telle ou telle chose. Et il a au moins l'assurance, très vite il va acquérir l'assurance qu'il est entendu, qu'il a cet espace de parole où il peut manifester ce qui lui déplaît, ce qui le peine, etc.